Il l'engage donc comme agent double. À chacun, Hollandais, aux Allemands, Ignaz vend des informations parfois réelles, souvent inventées. Il joue au double, triple espion. Il n'a pas de patrie, seulement des clients. Il voyage partout, bouge sans arrêt. Partout, il change de nom, d'histoire, d'accent. Le SIS britannique, Secret Intelligence Service, n'est pas rancunier, mais il est méfiant. Après leur entretien, il garde à l'œil ce type affabulateur, menteur à tendance mégalomaniaque. En 1915, en plein cœur de la Première Guerre mondiale, Trebitch Lincoln est démasqué. Il échappe de justesse à l'arrestation et s'enfuit aux États-Unis. Là-bas, il prend contact avec l'attaché militaire allemand, qui réfute tout lien avec lui. Scandalisé, Trebitch Lincoln décide de vendre son histoire au New York World Magazine. Ensuite, il loue une machine à écrire, $2 par mois, avec l'argent qu'il n'a pas et qu'il emprunte à une prostituée de Harlem. Il rédige sa version de l'histoire. Après quelques jours seulement, il est arrêté et envoyé à la prison de Brooklyn. La cellule est humide. Une ampoule nue pend au plafond, grésille. Dehors, un train passe. Son grondement fait vibrer les barreaux. Ignaz Trebitch Lincoln est assis sur une couchette étroite. Sur ses genoux, une planche de bois posée en travers. Dessus, la machine à écrire qu'on l'a autorisé à garder. Il tape vite, frénétiquement. De temps à autre, il s'interrompt, lève la tête vers le plafond, comme s'il récitait son texte à un auditoire invisible. Le canon en nickel d'un revolver pointé sur ma poitrine. Il s'arrête, sourit, reprend. Oh, la phrase sonne bien. Le lecteur verra tout, entendra tout. Un gardien passe dans le couloir, jette un coup d'œil à travers les barreaux. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Lincoln ? Ignaz relève la tête, l'œil flamboyant. Je fabrique ma liberté. Le gardien ricane et s'éloigne. Mais Ignaz continue. Il n'écrit pas seulement une défense ni un témoignage. Il se met en scène. Il fabrique un personnage. Lui, l'ancien député, l'espion, le bouc émissaire du gouvernement britannique. Il ne sera pas un simple prisonnier oublié. Il sera un martyr, un prophète, un homme traqué parce qu'il en sait trop. Les heures passent, le ruban s'encrasse, ses yeux brûlent, mais il ne s'arrête pas. La cellule disparaît. Dans sa tête, il est déjà dehors. À New York, à Londres, à Berlin, dans les kiosques, son livre trône. Son nom s'affiche en grosses lettres. Il se voit déjà vengé. Son récit est publié par Robert McBride en 1916 avec la bannière « Révélation d'ITT Lincoln, ancien membre du Parlement devenu espion ». On a connu plus discret. Ce qu'il cherche à faire, c'est redorer son blason terni. Non, il n'est pas un fraudeur, ni un escroc, rien de tout cela. C'est un lanceur d'alerte avant l'heure. Victime, évidemment, d'une persécution politique. Et la persécution continue. Le gouvernement britannique tente d'étouffer le scandale que ce livre suscite aux États-Unis et le fait arrêter puis déporter. Le canon en nickel d'un revolver de service pointé sur ma poitrine, accompagné des mots « ne bougez pas, ne faites aucun mouvement », crié par le shérif adjoint américain George B. Proctor. J'avais travaillé toute la journée sur ce livre dans la chaleur torride de New York et j'avais l'intention de me coucher tôt. C'est comme ça que commence son livre. À Londres, il est jugé pour escroquerie financière. Il purge 3 ans de prison et en sort en 1919, déchu de sa nationalité britannique. Voilà. Et maintenant, vous demandez-vous sûrement. ITTL, Ignaz Trebitch Lincoln, a 40 ans. Et c'est une toute nouvelle vie qui commence. La prison, l'inaction, le temps qui s'arrête. Est-ce que tout ça lui a permis de réfléchir à ce qu'il allait faire de sa vie? A-t-il pris conscience de sa situation? A-t-il mûri, gagné en sagesse? Eh bien, jugez par vous-même. Apatride et sans un sou, Trebitz Lincoln refait surface à Berlin en mars 1920, quelques semaines à peine après sa sortie de prison. Il faut lui reconnaître une certaine capacité à rebondir. Il réapparaît à Berlin le 13 mars 1920 exactement. À ce moment très précis de l'histoire, l'Allemagne est une poudrière. Vaincue, humiliée, elle est parcourue de conspirations. Trebitz Lincoln réussit à se frayer rapidement un chemin dans les milieux militaristes d'extrême droite de la Weimar. Il rencontre Wolfgang Kapp, un fonctionnaire austère qui rêve de restaurer l'ordre ancien. Cet homme, aux petites lunettes rondes, vient de lancer un putsch qui fait immédiatement tomber le gouvernement. Trebitz Lincoln est nommé censeur de presse du gouvernement provisoire, comme si son talent pour le mensonge et la fabulation était soudainement une compétence recherchée. Cette fonction lui permet de rencontrer Adolf Hitler. En 1920, il rencontre donc celui qui vient de fonder le NSDAP, Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands. Le national-socialisme, qu'on appellera bientôt le parti nazi. Celui qui organisera, 20 ans plus tard, le génocide de plus de 6 millions de juifs. Mais lui, est-il encore juif? S'intéresse-t-il encore au sort de sa famille, de ses parents, de ses frères? Non. Ignaz Trebitz Lincoln traverse le monde sans prendre le temps de se soucier des gens qui l'entourent. Il sert sa cause. Et c'est un travail suffisamment fastidieux. 5 jours après avoir été lancé, le coup d'État s'écroule. Personne ne les soutient. Pas le public, ni les banques, ni aucune institution. C'est un coup d'épée dans l'eau. Alors Trebitz Lincoln reprend sa fuite en avant. Vienne, Budapest, chaque fois, il se met en relation avec des factions politiques qui font toute partie de la mouvance connue sous le nom de White International. Dans une nouvelle capitale, il en profite pour vendre ses informations aux différents services secrets. Il n'oublie pas sa vocation tardive d'espion, mais on ne peut pas servir les intérêts de tout le monde, car cela signifie servir les intérêts de personne. Et donc, dans une période qui sent le soufre, sur cette poudrière prête à exploser qu'est l'Europe, vous devenez un traître. Accusé de haute trahison, Trebitz Lincoln est acquitté de justesse en Autriche. Il est persona non grata partout et son nom devient trop connu. Après l'assassinat d'un parlementaire italien en 1924, le tueur affirme lors de son arrestation s'appeler Trebitz Lincoln. Désormais, notre protagoniste est complètement cramé sur un continent entier. Impossible pour lui de rebondir. On ne donne pas de seconde chance à des escrocs de cette envergure. La fuite, il connaît. Alors il reprend la route, toujours plus loin. Trebitz Lincoln erre pendant quelques années. Il reste peu de traces de cette errance. Son nom apparaît de manière très fugace dans la gigantesque capitale de l'Empire ottoman. Il semble qu'il ne reste pas longtemps à Constantinople. On peut imaginer comment ça s'est passé pour lui là-bas. Là-bas et partout, il s'est arrêté. Jusqu'à finir en Chine, à Shanghai précisément. Là, il reprend du poil de la bête. Il faut dire que la ville est alors un mélange explosif qui semble parfaitement lui convenir. Concessions étrangères, triades, espions, marchands. Il a de nouveau les yeux qui brillent. Lentement, Trebitch fait son trou. Ce soir, il a d'ailleurs rendez-vous dans l'un des palais les mieux gardés de l'immensité. Dans la cour boueuse, les soldats claquent des bottes, fusils en bandoulière. Au centre, une maison basse, couverte de tuiles sombres. À l'intérieur, l'air est saturé de fumée, d'encens et de tabac. Des généraux en uniforme se tiennent autour d'une table encombrée de cartes et de théières. Parmi eux, un visage inattendu. Ignaz Trebitch Lincoln. Assis en retrait, vêtu d'un costume occidental mal ajusté, il tient un carnet et un crayon. Il observe, il note, il traduit. Devant lui, le maître des lieux, whoop et fou, élégant, barbe fine, robe militaire impeccable. On le surnomme le général lettré. Ses manières sont mesurées, son ton grave, presque professoral. Wu parle en chinois, calmement, en pesant chaque mot. Trebitch écoute, puis se lève, ajuste sa veste et traduit en anglais pour deux journalistes américains invités. Sa voix est ferme, théâtrale. Le général Wu n'est pas un seigneur de guerre, mais un patriote. Il ne se bat pas pour lui-même, mais pour l'unité de la Chine. Il est le défenseur de l'ordre contre le chaos, de la tradition contre la décadence. Les journalistes griffonnent, impressionnés. Trebitch s'enivre de ses propres paroles. Il fait briller Wu comme un héros national, un rempart contre le désordre. Il ajoute des superlatifs, des images qu'on ne lui a pas soufflées. Il fabrique une légende à mesure qu'il traduit. Wu Peifu le regarde de côté, intrigué. Peut-être devine-t-il que cet étranger en fait trop, mais pour l'instant, il le laisse faire. Après la séance, dans le couloir, Trebitch marche d'un pas vif. Il se tourne vers un officier chinois qui l'accompagne. « Vous voyez, avec mes mots, le monde comprendra qui et où. Je peux convaincre les journaux de New York, de Londres. J'ai des contacts. L'opinion publique, je la connais. Faites-moi confiance. Je peux être indispensable. » Comme toujours, Trebitch parvient à se frayer un chemin jusqu'au plus puissant personnage de la ville. Il se met au service de trois seigneurs de guerre durant une période trouble où le pays est morcelé entre les seigneurs qui se disputent Pékin, les provinces et le contrôle de l'armée. Il est même nommé porte-parole international par le tout-puissant seigneur Wu Peifu. Mais évidemment, ça ne dure qu'un temps. Il finit par se mettre à dos ses anciens maîtres. En 1929, après une supposée expérience mystique, Ignaz Trebitch Lincoln se convertit au bouddhisme. Il retrouve en quelque sorte son premier amour, la religion. Il se rase la tête, endosse une robe safran et devient moine. En 1931, il est élevé au rang d'abbé. Il établit son propre monastère bouddhique à Shanghai. Désormais, il faut l'appeler Abbé Chao Kung. Dans une salle obscure, parfumée d'encens, il s'assoit en tailleur devant ses disciples fascinés. Sa voix est douce, mesurée. Il guide une méditation. Il parle d'équilibre intérieur, d'un chemin vers la sérénité. Ses adeptes ferment les yeux, Trebitch. Croit-il enfin ses propres mots ou joue-t-il encore un rôle? À un moment, il se lève et demande aux nouveaux fidèles de faire tourner l'opale. Il convient de se débarrasser de toutes leurs possessions matérielles afin de s'élever spirituellement. Il en prendra grand soin, il le promet. Et nous, à ce stade, on le croit volontiers. Son temple d'une petite secte bouddhique attire des curieux, des adeptes. Certains voient en lui un maître sincère, d'autres le soupçonnent d'être un imposteur. Avec lui, la frontière est toujours brouillée. Mais la politique le rattrape. Alors que l'Europe sombre de nouveau dans la guerre, Trebitch reprend contact avec l'Allemagne. Au fond de lui résonne toujours la promesse qu'il s'était faite. Hein, ça, vous ne voulez pas de moi comme espion. Hein, les Britons. Ils proposent aux nazis de créer une mouvance bouddhiste qui se rebellera contre toute influence britannique dans la région. De la Gestapo en Extrême-Orient, le colonel SS Josef Meisinger insiste pour que ce projet soit pris au sérieux. Il est sérieusement envisagé que Trebitsch soit autorisé à accompagner des agents allemands au Tibet afin de mettre en œuvre ce projet. Dans le même temps, il rédige une propagande anti-britannique à destination des Japonais depuis son monastère. Rancunier, je vous l'avais dit. Après la mort du Dalai Lama, celui qu'on appelle désormais Chao Kung se proclame comme le nouveau Dalai Lama. Oui, oui, vous avez bien entendu. La mégalomanie n'a pas de limite. Encore plus incroyable, la décision est soutenue par les Japonais qui occupent Shanghai, mais pas par les Tibétains. En 1943, Ignaz Trebitsch Lincoln meurt chez lui, dans son temple à Shanghai, à 64 ans, dans une chambre modeste, vêtue de sa robe de moine. Il est emporté par une maladie abdominale, une fin discrète, somme toute banale pour un homme de sa trempe. Trebitsch change au moins 17 fois de nom, adopte 5 religions, vit dans au moins 7 pays et exerce 8 métiers différents. Alors cette mort banale d'un cancer du pancréas semble mettre un point final presque décevant à la vie extraordinaire de Trebitsch Lincoln. À moins qu'on s'approche un peu plus près du cercueil qui s'apprête à être crématisé. Si on tend l'oreille, on entend quelques rumeurs remonter jusqu'à nous. Les Allemands auraient chargé les Japonais qui occupent Shanghai et une partie de la Chine en 1943 d'éliminer un homme bavard et sans scrupules qui en savait trop. Une mort par empoisonnement. Ça serait une fin à la hauteur du personnage. Et puis, si on s'approche encore un peu plus du cercueil qui attend son heure devant le four crématoire et qu'on frappe doucement sur le bois mince, peut-être qu'on entendra un son creux. Josef Nedava, qui assiste à la cérémonie et qui publiera 10 ans plus tard la première biographie de Trebitsch, affirme en effet que le cercueil est